On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours.
Est-ce qu'on peut dire dédier le cours,
c'est sur le...
pour oui. Mendy, le petit Mendy.
On va dédier le cours.
Mendy,
Bezrat Hashem, le Nishmat.
Ben Chaim.
Ben Nachem Mendel, Ben Chaim Inan.
Razak, merci beaucoup.
Voilà. On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 41. Et nous sommes à la page 230.
Du fils de Chaim.
Oui, je l'ai dit. Donc nous sommes au deuxième cours sur le chapitre 41. Rappelons rapidement ce qu'on a expliqué dans le premier cours. Dans le premier cours, nous avons expliqué que même si aimer Dieu c'est très important et que l'amour de Dieu est nécessaire quand on sert à Kadosh Baruch Hu, parce que si on n'aime pas, on ne va pas le servir. Mais on a expliqué que néanmoins, avant même de parler d'amour, il faut parler d'abord de crainte. Il faut craindre à Kadosh Baruch Hu, au moins une crainte primaire. Alors c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Donc on avait fait tout un cours entier, qui à mon avis est un chapitre très important, le chapitre 41, dans lequel l'Admour HaZaken nous a expliqué comment faire pour avoir la crainte de Dieu. Parce que finalement c'est très compliqué, tu me demandes d'avoir la crainte de quelque chose que je ne connais pas, et que je ne vois pas. Tu me dis, il y a un loup qui arrive, il est là, il ouvre sa gueule devant toi, pff, il est là. Est-ce que j'ai peur?
Oui.
Oui, pourquoi j'ai peur? Parce que je le vois. Je le vois, il a ouvert ses dents, je vois ses dents comme ça, et je vois qu'il est très très fin, et je vois que c'est une bonne chair pour lui. J'ai peur. D'accord? Pourquoi j'ai peur? Parce que je sais ce que c'est un loup, je sais que je suis devant lui, je sais que j'ai pas de quoi me défendre, donc j'ai peur. Donc c'est facile d'avoir peur de quelque chose qu'on connaît et de quelque chose qu'on voit. Le problème, c'est qu'on nous demande, dans la Torah, d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu. Peur, c'est peut-être pas un bon mot, mais d'avoir la crainte de Dieu. Mais Dieu, je ne le vois pas. Alors comment tu veux que j'ai la crainte de Dieu?
Et puis il est bon en plus.
Tu peux me demander bon, peut-être l'amour, d'apprendre à l'aimer. Tu dis, regarde, il y a un Dieu qui pense à toi. Et encore, même aimer. J'aime qui? J'aime quoi? J'aime quoi? Il faut une substance quand j'aime quelqu'un. C'est comme si je vous dis, imaginez, voilà. Imaginez que je vous dis, tu vois Serge, tu respires. Tu respires maintenant, oui. Tu sais grâce à qui tu respires? Il y a un monsieur qui est là, tu le vois pas, mais il est en train de te mettre de l'air dans tes narines. Donc il faut lui dire merci. Vas-y, dis-lui merci.
Merci
à qui?
De rien.
Merci qui?
J'aime.
Hein? Merci tonton Serge. Alors merci qui? Mais ça veut dire quoi? Tu dis merci à qui? Je le vois pas. C'est difficile à sentir qu'on aime quelque chose qu'on ne voit pas et sentir qu'on craint quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pour ça que l'Admour HaZaken explique qu'il a commencé à développer une technique qu'on a développée dans tout le chapitre 41. Une technique qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. C'est pas des choses compliquées ce qu'on dit. Des choses que chacun peut appliquer dans sa vie. Il a donné une technique en plusieurs étapes. Très simple. C'est la psychologie en vérité. Tu dis, voilà comment tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir d'abord au fait que Dieu est très très grand. Essaye de t'imaginer comment Dieu est grand, 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 grand. Essaye de prendre le plus de recul possible pour voir à quel point Dieu est très très grand. Ensuite, essaye de t'imaginer comment ce Dieu qui est très très grand et qui n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi ce Dieu. On est d'accord? Pourtant, il a un Gan Eden, il a un Olam Haba, bonsoir, il a tout ce qu'il a besoin. Et pourtant, il met tout de côté. Tout le Gan Eden, tout le monde, tout de côté. Et il se concentre sur qui? Il se concentre sur le peuple juif. Et dans le peuple juif, il se concentre sur qui? Il se concentre sur chacun de nous. Bashgara pratique comment Dieu fait les choses. La semaine dernière, j'étais chez le rabbi. Et mercredi soir, il y avait un grand fabringen organisé. Okronite, qui est donc le quartier du rabbi. Il y a beaucoup de rabbinis qui ont parlé. Alors, j'avais pas la force d'entendre tous les discours parce que j'étais très fatigué. J'avais pas dormi de l'air. Enfin, à l'heure où j'étais là-bas, il devait être, je sais pas, 22, 23 heures, mais avec le décalage horaire, il était pour moi 4. Donc, je m'endormais plusieurs fois. Mais je suis quand même resté parce que ça m'intéressait. Je voulais entendre ce qu'il se disait, évidemment. Et dans ce qu'il se disait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs rabbanim, comment Dieu fait les choses, qui ont parlé de ce chapitre. Ils ont parlé de ce chapitre. Ils ont parlé comment ce chapitre est un chapitre très important, que chacun doit se dire ce qu'on est en train de dire, que Akadosh Baruch Hu, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, tu vois, de toutes les créatures que j'ai créées, de tout ce monde que j'ai créé, de tout le Gan Eden que j'ai créé, de tout ce que j'ai créé, je mets tout de côté pour me concentrer sur le peuple juif. Et dans le peuple juif, je cherche à me concentrer sur qui? Je cherche à me concentrer spécifiquement sur toi. C'est-à-dire que chacun de nous doit comprendre qu'il est indispensable pour Dieu. pourrait des fois avoir une petite pensée au fond de nous qui dit finalement, ça change quoi Dieu si je mets les tefillines, je ne mets pas les tefillines. Bah, j'ai fait mitra, je n'ai pas fait mitra, shacharit, pas shacharit, arvit, pas arvit. Bah, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est rien. C'est pas que pour Dieu c'est pas important, c'est que moi je me sens insignifiant. Je suis noyé dans la masse. Ouais, je vois rien. C'est là que vient la Hitbonenout, la réflexion du chapitre 41, hein, qui explique que un juif ne doit pas réfléchir comme ça. Un juif, il doit comprendre qu'il est important pour Dieu. Et que individuellement, il est important pour Dieu. Et que Dieu le regarde. Et que Dieu, aussi grand qu'il est, il met tout de côté pour regarder ce juif. Donc vous imaginez, quand tu t'imagines qu'il y a un roi énorme, le plus grand PDG que tu puisses imaginer. Et pourtant, il met tout de côté pour venir te voir, et pour venir t'observer, et pour venir voir qui tu es, et pour venir voir ce que tu fais, et pour apprécier les efforts que tu fais. Quand tu vois ça, d'abord, t'es très content, t'as une très grande joie, mais tout de suite, t'es pris d'une crainte. Tu te dis, mais attends, tu t'imagines, il regarde tout ce que je fais. Imagine que, mais c'est pas une crainte dans le sens, j'ai peur, il a avec un fusil, et il attend pour tirer au moindre faux pas. C'est au contraire. Imaginez juste un tzaddik. Vous êtes sur un tzaddik. Imaginez qu'il y a un tzaddik, qui a des milliers, des dizaines de milliers de chassidim, ou des centaines de milliers, qui met tout de côté, et qui vient voir Serge. Il vient, il toque à la porte chez Serge, il dit bonjour Serge, je suis venu te voir. Hein? Rabbi, vous voulez quoi? Je veux juste te voir. Je veux voir comment tu te comportes. Comment tu te sentirais à ce moment-là?
Honoré.
Je suis venu te voir Serge, c'est tout. Je suis pas venu te demander de l'argent. Je suis venu te voir. Je veux te voir.
T'es un gagnant.
C'est important pour moi.
C'est un gagnant, lui a dit.
Alors quel sentiment tu vas avoir à ce moment-là? D'abord, tu vas avoir un sentiment d'importance. Tout de suite, tu vas comprendre que tu es important.
Ah oui.
Waouh. Mais aussi, en même temps, tu as un sentiment de crainte. Pas une crainte négative, une crainte que tu comprends quand on te regarde. Tu comprends, c'est-à-dire que tu comprends que tu es quelqu'un d'important en train de te regarder.
Tu comprends que tu es important.
Tu sais, quand par exemple, tu as une personne, tu as par exemple une star qui sort dehors dans la rue. Est-ce que vous avez déjà vu une star sortir de chez lui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait quand il sort de chez lui? Il regarde à droite, il regarde à gauche. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'appareil photo, hein, qui sont en train de le filmer, etc. Tout le temps, il pense qu'il est regardé. Des fois, il y en a qui font une phobie parce qu'il n'y a personne qui te regarde, baba. T'es pas important. Ouais. Mais comme dans sa tête, il pense qu'il est important, et des fois, il y a des gens qui sont vraiment importants. Enfin, qui sont... Donc, qu'est-ce qui se passe? Il regarde, qu'est-ce qui se passe? Et chaque chose qu'il fait, ça veut dire que chaque chose qu'il fait, même s'il est juste sorti de chez lui pour aller acheter une baguette, qu'est-ce qu'il se dit? Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de me filmer. Donc, quand je marche, je dois faire attention à comment je marche, je dois faire attention à mon image, je dois faire attention à mon pas, je dois faire attention aux mots que je dis, je dois faire attention à ce que je regarde, je dois faire attention à ce que je fais. Maintenant ça, c'est juste une star qui a l'impression, peut-être qui est peut-être ou faux, vrai ou faux, qu'il y a un autre homme qui le regarde. Mais imaginez si c'est pas un homme qui vous regarde, si c'est Dieu qui vous regarde. Ça serait imaginé, tu vois là, tu bouges, tu dis, ah, il a bougé la main. Il a bougé la main. Mais sauf que Dieu il se cache pas. C'est pas le paradis qui se cache. Donc là, tout de suite, tu comprends qu'à Kadosh Baruch Hu, je suis important pour lui. Et donc, automatiquement, je comprends que c'est quelque chose d'important. Vous savez, c'est comme j'ai vu une fois un rav qui a donné ce machin, qui a donné cet exemple. Il dit, quand vous regardez un film, bon, un film cachère, d'accord. On n'a pas, moi je ne vois pas de film à la maison, mais quand vous regardez un film, dans un film, il y a combien d'acteurs principaux?
Deux ou trois.
Alors, il y a trois, c'est énorme, c'est un gros budget si on a. C'est un budget faramineux si on a trois acteurs principaux. Et combien de figurants on a? Combien de figurants on a? Beaucoup. D'accord? Beaucoup. Il peut avoir des centaines, des milliers.
Dans les 10 commandements, il y a des tonnes et des tonnes.
Après, il y a les effets. Quelle est la différence? Quelle est la différence maintenant entre un acteur et un figurant?
L'acteur,
il
est...
Non, le salaire.
À part le salaire. L'acteur, quelle est la différence entre l'acteur et le figurant?
On voit que lui.
La différence est très simple. C'est que l'acteur, il a un rôle important dans le film. Et alors, attends. Imaginez que le figurant, il n'a pas figuré d'une parfaite façon. C'est pas grave. Pour qu'on refasse une scène à cause d'un figurant, il faut vraiment que le figurant il a fait les oreilles d'âne. Mais stam un figurant que le maître, au lieu de mettre un pas, il a mis un pas un peu plus rapide, moins rapide. C'est rien.
C'est pas grave.
D'abord c'est flouté, on regarde même pas. C'est pas ça. Par contre, un acteur, quand c'est l'acteur qui est en train de jouer, Là, stop. Comment ils disent là quand ils arrêtent là, hein? Tac, coupé. Recommence, coupé, recommence. Prends, recommence. Parce qu'il nous faut la, il nous faut
le parfait, le
la perfection. Parfait. Pourquoi la perfection? Parce que chaque geste sera analysé. Et ça, avec ça, c'est juste pour un film. Juste pour un film. Alors imaginez maintenant, si on ne parle pas d'un film, les Avdil, on parle de Dieu. Que Dieu, il te regarde les choses que tu fais. Juste déjà, tu te dis ça. Tu te dis que peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, que tu sois à la synagogue, que tu sois chez toi à la maison, que tu sois au bord d'une plage, que tu sois sous ta couverture, partout où tu es, partout, que tu sois dans ta douche, que tu sois aux toilettes, que tu sois partout où tu es, toujours Dieu qui te regarde.
Tout le temps.
C'est Big Brother. Oui, c'est Big God.
Voilà.
He's watching you.
24.
Mais c'est pas pour t'embêter. C'est pas qu'il te regarde pour te fliquer. Il te regarde parce que t'es important pour lui.
T'as mis en l'histoire du roi David.
Oui.
Dans la salle de bain. Il est,
non, mais ça veut dire, vous imaginez ce que ça veut dire.
Il a pas de culotte sur lui. Il se sentait.
Et donc là, quand tu réfléchis à ça, hein, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais c'est énorme. Il me lâche pas. Non, il te lâche pas. C'est comme si tu dis, écoute, Akadosh Baruch Hu, voilà, toute la journée, je suis pour toi. Lâche-moi 5 minutes. Voilà. Je fais ce que j'ai envie de faire. Après, hein, un peu de liberté. 5 minutes de liberté. Et je te donne en contrepartie 23 heures et 55 minutes.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Dieu dit, tu peux pas. Je peux pas te lâcher.
À non-stop. Ah,
non-stop. Non-stop. Il te regarde, il te lâche pas.
Quand tu dors, tu rêves aussi?
Tout le temps. Dieu est toujours en train de te regarder. Donc là, quand on réfléchit à ça, ça fait peur. Pas peur dans le sens que j'ai peur et il va me frapper.
Bon, ça pose des questions. Hein.
C'est que tout de suite, ça te dit, attends, c'est quand même. Nous, on croyait que c'était avant. Bon, on est là, on est des figurants, on travaille. Bon, il y a un Dieu qui est en haut, un grand Dieu, qui nous regarde en bas, qui dit, bon, refais ça, vas-y, refais ça. Non, ça, c'est pas bien. Là, c'est beaucoup plus que ça. C'est carrément, il te regarde. Il te regarde, il te fixe, il regarde ce que tu fais. Et il veut voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est extraordinaire, c'est énorme.
Il y a l'expression de la peur du gendarme. Dès que tu vois un gendarme, tout de suite, tu regardes.
Mais là, c'est. Oui. Là, c'est. Voilà. Là, c'est non-stop. Ça s'arrête jamais. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous savez que c'est la première halakha du Shulchan Aruch. Première halakha du Shulchan Aruch. Vous ouvrez le Shulchan Aruch. Quelle est la première halakha?
Shiviti
Hashem, les Negdi Tamid. Je place Dieu devant moi tout le temps. C'est la première phrase du Shulchan Aruch. La base. C'est quoi la base du Shulchan Aruch? C'est qu'un juif, il a tout le temps Dieu devant lui. Et c'est la raison pour laquelle du Shulchan Aruch, quand tu te lèves le matin, tu te réveilles, t'as pas envie de te lever. Mais quand tu te rappelles qu'il y a Dieu qui est là, qui te regarde, qui dit, alors,
je t'attends.
Ton réveil, il a sonné.
Toi, t'appuies sur snooze, tu dis, réveille-moi dans 9 minutes. Dieu dit, moi, je t'attends. Alors,
David,
nous,
David, c'est pour toi, ça.
Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est les mots de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch te dit, je suis vite yaché le Nagdi Tamid. Que Dieu, il te regarde, je place Dieu devant mes yeux tout le temps. Et c'est pour ça, la première chose que je fais quand je me réveille, je me lève avec empressement. C'est ce que je dis, Dieu, il me regarde, il m'attend. Il me regarde, il m'observe. Donc là, l'Admor HaZaken nous donne une technique qu'on fait que commencer à développer, parce qu'il faut du temps, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'exemples pour essayer de comprendre comment je peux amener dans ma vie de tous les jours, comment je peux amener cette crainte à Kadosh Baruch Hu concrètement. On avait dit, oui. Vas-y.
C'est un peu, c'est limite, mais c'est comme, c'est pas. Si on dit que Akadosh Baruch Hu nous regarde du matin jusqu'au soir.
Attends, d'abord, passez-le un livre. Tu vois, il n'y a pas assez de livres. Il y a des livres là-bas au fond.
Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde avec bienveillance tous les jours.
Oui. Azak.
Alors, comment on peut parler de la chose? Merci. Même si tu n'as pas de réponse forcément à me donner.
On n'a pas de réponse.
Mais voilà.
On aura la réponse
quand
on regarde. Regarde. Elie Wiesel. D'accord? Elie Wiesel. Elie Wiesel, il a raconté que, d'ailleurs, j'ai.
Choix ou autre chose. Hein,
justement, d'accord. Oui, non, mais la chose, c'est un bon exemple. C'est un mauvais exemple, mais bon, malheureusement, pour illustrer ça, c'est un bon exemple. Là, dans la Shoah, Elie Wiesel, ça l'a tracassé, c'est un juif. Elie Wiesel, c'est un juif religieux. C'est un juif qui était raciste. D'accord. Et donc, la Shoah l'a tracassé parce que ça remet en question beaucoup de choses. Tu dis que les gens qui font les mitzvot sont protégés, alors dans les faits, on l'a pas en la vie, c'est le contraire. Donc, ça l'a beaucoup tracassé. Comme une grande partie des juifs qui sont passés par la Shoah. Donc, il avait la question que tout le monde posait. Où était Dieu pendant la Shoah? Bon, nous, c'est une question qu'on pose comme ça. Quelqu'un qui a vécu la Shoah. Vous savez, quand je vais chez, que j'ai beaucoup d'amis ashkénazes à la yeshiva, il n'y a pas une famille dans laquelle il n'y a pas eu de mort. Ah oui, il n'y a pas, pratiquement pas. C'est-à-dire, tous mes amis, ils ont tous un grand-père ou une grand-mère ou un oncle, dans toutes les familles. Qui a été déporté ou qui a été sauvé ou qui a été. Il y a toujours une histoire autour. Malheureusement, c'est la vie. À part ceux qui avaient eu la présence d'esprit de partir aux États-Unis ou de partir en Israël avant, etc. Bon, voilà. En tout cas, ils viennent tous de là-bas. Alors bon, quelqu'un qui a vécu ça. Et Elie Wiesel, il a vécu ça. Donc, Et lui, Zel, il avait une question qui était, où était Dieu pendant la Shoah? Il a beaucoup réfléchi, il a parlé avec beaucoup de rabbinim, beaucoup de penseurs, etc. Mais il n'arrivait pas à trouver de réponse. Il n'arrivait pas à trouver de réponse. Et dans ses mémoires, il raconte ça. Il raconte qu'à un moment, on lui a conseillé d'aller voir le rabbi, dont c'était à la Hiloula la semaine dernière. Il est parti voir le rabbi. Il est resté plusieurs heures avec le rabbi, il a parlé. D'ailleurs, le rabbi lui a adressé après, je crois que c'était quelques semaines après, une lettre, qui est la plus longue lettre que le rabbi ait jamais adressée. Une très longue lettre, une lettre très très longue. Jamais le rabbi n'a adressé des lettres longues comme ça. C'est-à-dire comment Elie Wiesel, c'était quelqu'un qui était respecté. Ouais. Et il a dit comme ça. Alors, les chassidim, évidemment, ils étaient curieux. Alors, cette lettre, c'est lui qui a bien voulu la publier plus tard, mais les chassidim, ils étaient curieux. Ils ont dit, mais qu'est-ce que le rabbi vous a dit? Il savait dans quel état il est rentré. Alors, évidemment, il ne voulait pas répéter parce que c'est privé. Mais il a dit, je vais vous dire une chose. Avant de rentrer dans le bureau du rabbi, la question que je me posais, c'était où était Dieu pendant la Shoah? D'accord. Le rabbi m'a aidé à arriver à la conclusion suivante. Que c'est pas la bonne question que je pose. La question n'est pas où était Dieu pendant la Shoah. Où Dieu n'était pas pendant la Shoah.
C'est-à-dire il était.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tellement gros qu'il n'y a que Dieu qui peut être derrière ça. Ah, comment c'est possible?
Oui.
Ça, c'est une question.
C'est la deuxième partie à avaler la plus dure.
Non, mais c'est une question.
C'est la plus dure.
Et il faut accepter que même Moshe Rabbeinu, il faut savoir que même Moshe Rabbeinu, dans la parasha de Vaera, il a posé la question à Dieu. Il a dit, pourquoi tu fais des souffrances à ce peuple-là, ma, pourquoi? Et Dieu lui a répondu, il a dit, je peux pas te répondre. Il a dit, il y a des choses qu'on peut pas répondre, je peux pas répondre. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que je suis derrière.
C'est pas au niveau.
Et que c'est pas pour le mal. Pourquoi? Comment ça marche? Je peux pas comprendre. Mmh. Pas parce que si je le comprenais, je serais moi Dieu.
Bah oui.
Il faut pas chercher à expliquer l'inexplicable. Quand vous avez des fois des charlatans qui vous racontent des bêtises, qui vous disent à cause de ça, c'est des rigolos. C'est des rigolos, c'est vrai. Il faut pas expliquer l'inexplicable. Pourquoi Dieu a créé le monde en 6 jours? Pourquoi il n'a pas créé en 8 jours? Je j'en sais, moi. Il y a des choses qui ne dépassent, je ne comprends pas. Je ne suis pas le créateur. Certainement qu'un jour, j'espère, Dieu nous expliquera pourquoi c'est pour notre bien. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il sait ce qu'il fait. Pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est un mot du... Bon, je refais la parenthèse, hein, parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, dont célèbre ce jeudi, il a fait de sa libération ce jeudi, Rabbi Yosef Yitzhak qui disait la chose suivante, parce que lui, il a vécu la Shoah, lui aussi il a vécu la Shoah, il a perdu une grande partie de ses chassidim. Il a dit d'ailleurs après la Shoah, il a dit du ciel on me l'a caché ça. Comme ça il a dit. Parce que pourtant il voyait beaucoup de choses. Hein. Il a dit du ciel on me l'a caché ça. Ça veut dire que bon, voilà, ça veut dire que Dieu lui a montré plein de choses, et il a fait des très grands miracles, mais du ciel on ne lui a pas montré ça. Il a dit clairement. Donc il recevait après dans son bureau des centaines et des milliers de chassidim qui étaient rescapés et qui venaient pleurer avec lui. À 2 secondes, ils avaient tous perdu. Et alors, Rabbi Yosef Yitzhak avait dit la chose suivante. Il a dit, c'est pas à nous d'expliquer Dieu, c'est à Dieu de s'expliquer. Voilà, ça veut dire que c'est pas à nous de faire les comptables de Dieu. Parce que nous, on n'accepte pas ce qui s'est passé. Non. Mais c'est ça la force de l'Emouna. La force de l'Emouna, c'est que parallèlement, paradoxalement au fait qu'on ne comprend pas, ça n'empêche pas qu'on continue à croire en Dieu. On sait qu'il sait ce qu'il fait. On sait qu'il sait ce qu'il fait, mais on ne comprend pas. Ça sert à rien de vouloir s'auto-convaincre d'une réponse qui est une mauvaise réponse et qui est un affront. Qui est un affront à tous ces martyrs qui sont morts à Kiddush Hashem. Parce que vouloir dire qu'ils sont morts à cause de l'assimilation, c'est un affront et c'est un manque de respect envers ces millions de personnes qui sont morts. Pour qui tu te prends pour parler comme ça? Pour dire qu'ils sont morts parce qu'ils étaient assimilés. Toi, t'es plus assimilé qu'eux. Moi, je suis plus assimilé qu'eux.
Oui.
Bien sûr. Oui. Mais qui tu es pour parler comme ça? T'es le comptable de Dieu, tu t'es nommé comptable. Ferme ta bouche, c'est mieux.
Ah oui, monsieur.
Raconte pas des bêtises. Tu sais pas, tu sais pas. Pas grave, tu sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, on sait pas. C'est mieux quand on sait pas, c'est mieux de se taire.
Ah, bien sûr.
Ah, parce que des fois, on entend des aberrations qui font hérisser les cheveux. Bon.
On a quand même l'impression que le peuple juif, il continue à baisser la tête, à être soumis à la
tête. Non, c'est pas du tout, non. Mais, question, on a décidé ça? Qu'est-ce que tu veux faire? On a le droit de poser la question à Dieu, pourquoi il a fait ça, mais on doit continuer. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est nous qui décidons.
Tu poses la question, il n'y a pas de réponse.
Non. Il décide de te répondre, s'il veut te répondre, quand il veut te répondre. C'est lui le patron. C'est pas à moi de décider s'il doit me donner une réponse et quand il aura la réponse.
C'est le roi, nous, le peuple.
Oui.
On peut imaginer qu'il y ait une réponse.
Le peuple peut demander, mais ça change quoi d'avoir une réponse?
Il n'est pas prêt pour la réponse.
Ça change quoi?
Comment c'est possible que nous, on
n'est
pas prêt
pour
la réponse?
Tu fais
1780,
il
n'est pas prêt. On n'était pas prêt.
Ça va changer quoi? Tu vas faire quoi? Une révolte? Ça va rien changer là. Bon, alors à Bataille, revenons à notre sujet. D'accord? Donc c'était pour répondre à la question de Michael. D'accord? Pour répondre à la question de Michael, que Akadosh Baruch Hu, il nous observe. Et chaque juif compte pour Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas de penser qu'il y a un juif qui est noyé dans la masse. D'accord ? Il y a cette fameuse histoire. Une fois, il y a un juif qui était, je ne sais pas dans quelle île, une île perdue, une île paumée, et qui a écrit une lettre au rabbi, dans laquelle il a dit, il a écrit une lettre, et dans, il a signé cette lettre, le petit juif d'une île paumée, enfin c'est une île où il n'y a même pas 10 juifs. Il a signé le petit juif qui est perdu là-bas. Et le rabbi lui a répondu à cette lettre, dans les dernières années, alors que le rabbi répondait très peu déjà à cette époque-là. Il ne répondait pas des longues lettres en tout cas. Et le rabbi lui a répondu, il lui a dit la chose suivante, il lui a dit, il n'y a pas de petit juif. Il n'y a pas de petit juif, ça n'existe pas. Petit juif, ça n'existe pas. Il y a un juif tout court, et chaque juif est important. Comment on a expliqué ? Comment on a expliqué ? On a fait le cours Shabbat, non ? On a expliqué Shabbat, on a expliqué que chaque juif a une lettre dans Sefer Torah. Il n'y a pas une lettre plus importante ou moins importante. C'est une lettre dans Sefer Torah, c'est Kadosh. Donc ça, c'est un sentiment que chacun doit avoir. Et d'ailleurs, au passage, quand on étudie le Tanya, parce que vous savez que l'étude du Tanya est découpée selon les jours de l'année. Chaque jour de l'année, on apprend un morceau du Tanya. Et ce chapitre 41, ça tombe quel jour ? C'est l'étude du 11 Nissan. Et c'est quoi le 11 Nissan, Yudalef Nissan ? L'anniversaire du Rabbi. Ça veut dire que c'est un chapitre très important, ça. Très très important. Ça. Cette notion que chaque juif, il doit savoir qu'il est important pour Dieu. Il est important pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, je lisais justement, j'étais chez le Rabbi, et je lisais justement une lettre. Et une fois, une petite fille, je ne sais pas, elle devait avoir 8 ou 9 ans, qui a écrit au Rabbi. Il y a plein, toutes sortes de gens qui écrivent au Rabbi. Il n'y a pas une petite fille qui a écrit au Rabbi. Il a écrit jusque comme un enfant écrit au Rabbi. Et le Rabbi lui a répondu. Il répondait à tout le monde. Il lui a répondu, il l'a encouragé à faire sa mitzvah. Il lui a expliqué que sa mitzvah était importante pour Dieu. Que Dieu l'a regardée et que chaque fois qu'elle va respecter ses parents, chaque fois qu'elle va écouter ses professeurs, Dieu est content que Dieu la regarde et que ça compte pour un Kadosh Baruch Hu. Vous n'avez pas idée à quel point ça change la vie d'une personne, ça. Quand il comprend que ce qu'il fait est important. Il est important pas seulement pour lui, c'est important pour tout le monde, on le regarde. Donc ça, c'est l'idée que l'Admor HaZaken explique. Ok. Donc on va prendre maintenant l'étude du 11 Nissan. On va prendre la page 229. Ina Hashem Nitzavalav, en bas de la page 229. Ina Hashem Nitzavalav, Dieu, chacun de nous doit se rappeler que Dieu se tient au-dessus de lui. Umlo kolaretskevodo, et que le monde entier est empli de sa gloire. Umabital, avec que Dieu l'observe, il m'observe. Marcel, d'accord? David, Serge, tout le monde. Dieu, il t'observe maintenant, il te regarde. Ubochen klayot valev, et Dieu, tu peux pas le carotter. Va dire, bon, extérieurement, rien à signaler, il n'y a pas de problème. Tu ne lui fais pas ça, Dieu. Dieu, il regarde ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. Il te sonde. Il dit celui-là, parce que vous savez, vous comprenez, il y a des gens qui extérieurement, ils sont bien, mais intérieurement, c'est des mythos. Il y a des gens, c'est le contraire. Ils n'arrivent pas à exprimer leur amour à Hachem, mais au fond d'eux, ils aiment Hachem. Dieu, il voit tout. Dieu, il voit tout. Je ne peux pas le carotter. Ou Bochel Klayot Valev, Kadosh Baruch Hu, il sonde les reins et le cœur. Im Ovdo Karaoui, si on le sert comme il faut. Valken, c'est pour cela. C'est pour cela, on s'est arrêté là la dernière fois. Je suis à la page 230 en haut. C'est pour ça que il faut se tenir devant Hachem, qui omède l'ifna amelach comme si on était devant le roi. La vérité, c'est qu'on aurait aimé être comme ça toute la journée. Être, même quand je suis au boulot, quand je suis en cours de Torah, quand je suis chez moi à la maison, quand je suis assis dans mon canapé, quand je suis allongé dans mon lit, quand je suis sous ma douche, j'aimerais constamment me rappeler que Dieu est là. Mais dans les faits, c'est très compliqué. C'est très compliqué, on ne peut pas demander à une personne normale, une personne standard, je veux dire. On ne peut pas lui demander d'avoir ça tout le jour dans sa tête. Bien sûr qu'on aimerait avoir ça. Et c'est, on tend vers ça, de penser tout le temps à Dieu. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de dire qu'on pense tout le temps à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des moments clés dans la journée dans lesquels il faut, même si on n'arrive pas à le faire toute la journée, mais il y a des moments clés dans la journée dans lesquels il faut essayer de se remémorer ce qu'on a expliqué. Que Dieu est très grand et que Dieu met tout de côté pour s'occuper de qui ? De moi, de toi, de chacun de nous individuellement. Quel est le moment opportun dans la journée pour réfléchir à ça? C'est quoi?
Le matin.
Quand le matin?
Avant la tefila.
Avant de commencer la tefila. Avant de commencer la tefila, comme on a terminé la semaine dernière, on a expliqué qu'un juif, avant de commencer la tefila, il doit juste s'arrêter quelques secondes. Il faut arrêter la routine un petit peu. Il arrive directement, il est même pas sûr s'il est bien réveillé, directement, il est déjà assis, il a déjà mis les tefilines, il s'est même pas rendu compte que la tefila est déjà terminée. Il a déjà terminé cette tefila. On lui dit, mais attends, t'as failli aller vivre, c'est un rochrodesh aujourd'hui. J'ai fait la mita, je me rappelle pas, j'ai pas fait. Bah, le gars, il sait pas, tu vois. Non, le gars, quand il prend la route pour aller en vacances, le panneau où c'est écrit Cannes, il le rate pas, celui-là.
C'est pas jeune.
Celui-là, il le rate pas. Il va pas atterrir à Strasbourg, le gars. Il va atterrir à Cannes. Il sait où, c'est très bien où il va. Mais quand il fait la mita, ça, il a pas vu le panneau. Il a pas vu ce panneau. Comment t'as pas vu? T'étais où? Il était ailleurs. Pourquoi il était ailleurs? Parce que la tefila, parce que la tefila, elle a même pas démarré. Il a lu un texte. Ah, tu crois que c'est ça, Dieu? C'est ce que Dieu, il attend. Dieu, il attend qu'on prenne un texte, qu'on lise. Ça, ça sert la tefila? Pourquoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu prends un texte, tu lis? Tu lis quoi? C'est même pas ce que tu racontes. Je dis pas d'arrêter de lire. Il faut continuer à lire, mais il faut un petit peu se remettre en question. Avant de commencer la tefila, même si je connais pas la traduction de tous les mots, je dois m'arrêter quelques secondes pour dire, attends, qu'est-ce que je vais faire là? Je fais quoi là? Je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais ici? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Et ça, justement, dans le Fabrigen où j'étais à New York la semaine mercredi soir. Non, c'est pas mercredi soir, pardon, c'était mardi soir. C'était mardi soir. Le Fabrigen, justement, le Rav qui parlait, c'était le Rav. Comment il s'appelait? Son nom me reviendra. Il y avait le Rav Shem Tov, il y avait le Rav Lazarov, je crois. Bon, un Rav qui a très bien parlé. D'ailleurs, je me suis endormi un moment et je m'en suis beaucoup voulu. Lui parle en anglais. Il y a d'autres qui parlent en yiddish, mais et je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis endormi un moment fort et après je me suis réveillé en plein milieu et j'ai raté quelque chose.
Il parle pas en hébreu.
Il y en a qui aussi parlent en hébreu. Bon, alors en tout cas, je disais, le Rav justement, il parlait de ça. Il disait que, il expliquait que avant de commencer une tefila, avant de, il faut se poser la question, c'est qui ce Dieu à qui je suis en train de parler?
Ah, c'est le petit Dieu.
À qui je parle? À qui je parle?
Ah, c'est ça.
Tu comprends? Là, par exemple, j'ai devant moi M. Kassabi. Avant de parler à M. Kassabi, je sais que je parle à M. Kassabi. Et avant de composer son numéro de téléphone pour lui parler, je sais que je vais appeler M. Kassabi, je sais qui il est, d'accord? Je sais ce que je vais lui dire, je sais pourquoi je vais lui dire. N'est-ce pas? Vous prenez votre téléphone, vous composez un numéro. C'est pas Stam, tu prends le numéro, tu dis bon, ah, on m'a dit compose le numéro de M. Kassabi, j'ai composé. Ah bon, on m'a dit, lis-lui un texte, je sais même pas ce que je raconte du chino, j'ai fini, je raccroche, au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce délire?
C'est pour ça que les peuples païens, ils avaient des idoles, parce qu'ils n'arrivaient pas à...
Ah oui, mais justement, alors ça, nous on n'a pas le droit d'avoir des idoles.
Non, on n'a pas le droit.
Mais ça n'empêche pas que, on ne peut pas faire une tefila en lisant un texte. On n'est pas venu pour lire des textes.
C'est vraiment cette difficulté.
D'accord, on n'est pas en train de faire de la littérature. On n'est pas en cours d'histoire ou en cours de... Comment on appelle ça à l'école, les cours où on vous apprend, où on lit des textes, là?
Hein?
Littérature, voilà. On n'est pas en littérature. Là, c'est la littérature ou de la culture. La culture. On est venu écouter des airs. Mais on s'en fiche des airs. T'es pas venu pour écouter des airs. Va à un concert pour écouter des airs. Qu'est-ce que tu viens à la synagogue? Est-ce qu'il a chanté bien l'air ou il a mal chanté l'air? Est-ce que c'était marocain, tunisien, algérois, algérien ou marocain? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu crois que c'est pour ça que t'es venu à la synagogue? Est-ce qu'il y avait des pistaches ou des carottes ou des chips? On s'en fiche. Enfin, pour ça que t'es venu. Pourquoi t'es venu? T'es venu pour parler à Dieu. Seulement, je me parle à moi, je ne parle pas à vous. Il est possible qu'une personne est venue à la synagogue, il sait même pas qu'il est venu pour Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il est venu, il a entendu quelqu'un qui a parlé, il a entendu un rabbin qui a parlé, il a entendu un monsieur qui a parlé, il a dit ci, il a parlé à un tel, il a vu les vacances d'un tel, il a mangé ci, il a mangé ci, il a mangé ça. Tu sors de la synagogue, tu dis, t'as fait quoi? Et Dieu? Ah oui, ah, j'ai oublié Dieu.
Et en plus, ça arrive
tout, c'est bon. Ah oui, désolé, je t'ai oublié. Je suis dans ton palais, je suis passé à côté de toi, j'ai tourné autour de toi, mais j'ai oublié de te parler. J'ai dit un texte, hein. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ouais, t'as entendu, hein. C'est même pas qu'il était là, Michal. Pour ça qu'au Dilad Morazaken, avant de commencer à faire la tefila, surtout le matin, après, on devrait faire ça aussi à Mincha, mais surtout le matin, si vous n'arrivez pas tous les matins, essayez de faire ça au moins une fois par semaine, mais je pense qu'on peut le faire tous les matins. En tout cas, moi, j'essaie de le faire et ça marche.
En 30 secondes.
Même pas 30 secondes. Chacun à son niveau. Même 10 secondes. 10 secondes. Tu arrives à la synagogue, tu poses tes affaires, tu poses ton manteau, tu t'assois. Tu veux rester debout, reste debout. Mais pose-toi et dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Je prends un morceau de cuir, je le mets sur moi, pourquoi je fais ça? Je suis fou ou quoi? Pourquoi je fais ça? Ah, je me rappelle que ce morceau de cuir que je mets, c'est les tefilines, et que les tefilines, comme on va voir tout de suite, les tefilines me rappellent que je dois soumettre mon cœur et mon esprit à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je vais faire attention aux sentiments que je vais avoir, qui vont être des sentiments cachers. Je vais faire attention aux pensées que je vais avoir, qui vont être des pensées cachères, aux paroles que je vais avoir, aux actions que je vais avoir, et que je dois les soumettre à Kadosh Baruch Hu, et que ce Dieu, je vais essayer de lui parler pour lui dire ce que j'ai besoin. On a une chance de parler à Dieu. Qui n'a pas de problème dans la vie? On a tous des problèmes. Chacun a ses problèmes. T'as une occasion tous les jours de lui parler directement à Dieu en personne. Je sais pas si vous imaginez ce que je viens de dire. C'est-à-dire, t'as quelqu'un qui peut régler tes problèmes. Il peut les régler tes problèmes. Et tous les jours, c'est lui qui te donne rendez-vous. Et tu dis voilà, je te donne rendez-vous pour venir me voir. Tu viens le voir. Tu te présentes, etc. Mais tu passes à côté de la plaque. C'est-à-dire, t'as parlé avec le secrétaire, t'as parlé avec le ministre, t'as parlé avec etc. Et t'es passé devant le roi, tu l'as pas vu. Transparent. Tu dis que t'as pas vu. Mais t'as perdu ton temps, papa. T'as perdu ton temps. T'es venu pour quoi ici? T'es venu pour parler avec Hachem ou t'es venu pour brasser de l'air? C'est ce qu'il dit ici. Dis-le à Morazaken. Chacun, ok, Reftom. Chacun, selon son niveau, il doit penser à ce que je viens de vous dire. Tous les jours. Il doit penser. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Avant de faire la fila et même avant de faire une mitzvah. L'ifne essek Torah ou à mitzvah que moi le bichet allait venir. J'ai dit, bon, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais j'ai quand même voulu le repasser dessus parce que comme j'étais chez le rabbi entre temps, donc il y a eu des nouvelles idées, donc j'ai voulu, c'est pour ça que j'ai voulu repasser dessus. C'est pas ce temps pour répéter parce que je pense qu'il y a une dimension nouvelle. D'accord. Bon, maintenant on va donner des exemples concrets. On va parler de tzitzit et tefillin. Tous les matins, on fait la tefillah. Qu'est-ce que je fais quand je fais la tefillah? Je mets un talit et je mets les tefillin. À quoi ça sert? Quel rapport entre le talit et les tefillin et la prière? Oh, il y en a qui vont me dire c'est un accessoire de prière, d'accord?
Oui.
Mais pourquoi je mets un talit? Pourquoi je mets les tefillin?
Les tefillin, c'est une mitzvah de la Torah.
D'accord. Mais qui a dit que je dois les mettre au moment de la tefillah? Au moment de la prière. Je peux les mettre à 14h.
Tu peux les mettre quand tu veux, c'est fini.
On nous a appris comme ça, parce que tout le monde le fait. Ouais.
Je sais, je le fais comme ça aussi. Ah, oui. Quel rapport avec la tefillah?
Pourquoi
je fais ça pendant la tefillah? Autre question. On met un châle. C'est quoi cette histoire du châle? On prend un vêtement, on met un châle. Et quoi ça sert? Quoi il sert ce châle?
C'est écrit qu'on doit prendre un vêtement avec 4 tzitzit.
Non, c'est pas écrit.
Non?
C'est écrit que si on a un vêtement à 4 coins, ce vêtement à quelqu'un doit avoir les tzitzit.
Oui.
C'est écrit nulle part dans le Chumash. C'est écrit nulle part dans le Chumash qu'on doit mettre un talit pour faire la prière. C'est pas écrit.
Bah non.
C'est les rabbins qui ont rajouté. Mais c'est très bien. Mais pourquoi ils ont rajouté? Quelle est la logique qui est derrière?
Une tenue de combat.
Vous comprenez, c'est, mais ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que vous avez déjà posé cette question dans votre vie? Pourquoi je mets un châle? À quoi il sert ce châle? C'est un accessoire de mode? C'est un accessoire de prière? Pourquoi? Parce que pour parler à Dieu, il faut mettre un châle? C'est quoi, comment ça marche? Est-ce que c'est le vêtement de l'avocat, tu vois? C'est comme il faut la redingote de l'avocat? C'est, à quoi ça sert?
Pourquoi il sert ce châle?
Ouais, moi, je peux pas expliquer. Mais je vais te dire, c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage, et c'est quelque chose pour moi qui est inexplicable.
Bon, d'accord, non.
Ça veut dire que non, mais.
Non, une explication, c'est pas une réponse.
C'est en transmission que tu reçois.
Là, je suis pas d'accord. Une explication, c'est pas une réponse.
Et je peux pas expliquer.
Non, il faut expliquer.
Mais j'ai reçu comme ça.
Il faut expliquer. Ce qu'on peut expliquer, il faut l'expliquer.
J'explique, d'accord. Mais on reçoit ça, on sait pas pour. Je peux pas savoir pourquoi, ni comment.
Pourquoi tu m'attalies?
C'est pas pour nous aider à nous rappeler tout ce que l'on doit faire.
Après, on va voir. Il faut essayer de comprendre.
Il demande que tu reviens. Donc c'est quelque chose comme un tampon encreur. Tu étais imprimé, quoi. Ça t'est imprimé en toi. Maintenant, d'où ça vient? Moi, je ne peux pas l'expliquer.
Joseph, je ne remets pas en question est-ce qu'on fait ou on ne fait pas. Évidemment qu'on fait.
Oui, mais ils demandaient, eux, pourquoi...
Évidemment qu'on doit faire, évidemment que c'est pour notre bien, etc. Ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est à quoi je pense quand je le fais? À quoi je pense? À quoi ça sert? C'est-à-dire que je peux venir à la synagogue, j'ai mis le châle de prière, j'ai mis les tefillines, j'ai pris un texte, j'ai lu de l'hébreu, d'accord? J'ai fait le kaddish, je fais tout ce que tu veux, etc. Je suis reparti, je ne sais même pas que je suis venu parler avec Dieu. Alors, pourquoi je mets un talit? Il va expliquer. C'est quoi?
Je vais être en condition.
Ah, donc c'est comme un vêtement de sport, quoi, tu vois.
Ouais. Mais en condition.
Voilà.
Quand tu fais des pizzas, tu mets un chapeau.
Ah, parce que tu penses que... Excuse-moi, David, non, mais est-ce que je vais être un peu cru. Parce que tu penses que si on ne met pas un châle blanc comme ça, on ne peut pas se mettre en condition. Là, maintenant, arrête tout. Prie à Dieu maintenant, tu peux ou pas?
Prier, mais moins bien.
Ça change.
Non, pourquoi moins bien? Non, mais en plus, par exemple, certains, comme les Ashkenazim, dont certains Ashkenazim, mettent pas de talit tant qu'ils sont pas mariés.
Bien sûr.
Ah oui, bah oui, ils ont quand même un titi.
Pas tous les Ashkenazim ont un talit total.
Non, mais rien ne t'empêche de prier dans ta voiture.
Donc pas tous les Ashkenazim.
Voilà, il a raison.
L'après-midi, on met pas.
Des fois, t'as des petits moments de...
Non,
mais tu parles des petits moments de réflexion, des choses...
Oui, non, bien sûr. Mais ça, voilà, ce que je veux montrer, c'est que c'est des questions qu'on doit se poser. Et la génération dans laquelle, justement, je reviens à ce qu'on disait, Michael, je rebondis. La génération dans laquelle on disait aux gens, ça fait un siècle, deux siècles, et encore avant, lorsqu'un enfant posait une question, on lui disait, tais-toi, c'est comme ça. Ça, c'est fini, ça.
Ouais. D'accord. Heureusement, d'ailleurs.
Ça, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, il faut poser les questions.
Parce qu'on fait, on veut savoir
pourquoi. On veut comprendre pourquoi. Alors, c'est vrai qu'un enfant, il faut lui apprendre qu'il faut faire et c'est tout. D'accord? Mais après, à un moment, il faut expliquer. Il faut poser la question. Et quand par exemple, un jour, votre enfant va vous poser la question, papa, pourquoi on met le châle? Ne lui dis pas, ferme-la, c'est comme ça. Ne lui dis, réponds pas ça, il t'a posé une question, elle est légitime sa question. Réponds-lui. Si tu sais pas, tu lui dis, je sais pas, mon fils. Mais ne lui dis pas, toi, c'est comme ça. Il n'y a pas, c'est comme ça. Parce que si tu lui dis, si tu donnes cette réponse, qu'est-ce qui va retenir l'enfant? Le judaïsme, une religion de c'est comme ça. Moi, ça m'intéresse pas, le c'est comme ça. Moi, je veux comprendre ce que je fais. Moi, je veux qu'on m'explique ce que je fais. On m'explique pas, ils ont pas d'explication, alors elle est bidon, leur religion. Moi, je vais chercher autre chose. Ah oui? Moi, je vais chercher un autre loisir que je vais comprendre. Dis-lui, je sais pas, il faut demander, il faut chercher. Bon, ok. Ta question est bonne, il faut chercher. Comment ton fils se pose la question, pourquoi on met le talit, papa?
Parce que tu dis, ça n'aura pas que Hachem existe.
Mais quel rapport avec la prière? Pourquoi je dois mettre un talit pour une prière?
On se rappelait pendant la prière qu'on n'a jamais existé, mais bon, c'est
pas ça. À quoi ça sert? On va expliquer. Pardon. Alors là, on va rentrer dans le sod. Oui. On va commencer par le talit. Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets un talit? Quelle action je fais lorsque je mets un talit? Allez, rabotin, on va se réveiller un petit peu. Quand je mets un talit, comment je le mets? Qu'est-ce que
m'enveloppe.
Je fais? Je prends le talit et je m'enveloppe. Donc ça veut dire que je m'enveloppe de quelque chose. Ah, s'envelopper de. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va, par exemple, ingérer, qu'on verra après, des choses qu'on va manger, des choses qu'on va toucher. Mais là, le talit, la notion du talit, c'est la seule mitzvah, peut-être avec la soukha aussi, mais la soukha, c'est un peu différent, c'est la seule mitzvah qui est là pour t'envelopper. Alors, la soukha, c'est un peu différent, parce que la soukha, elle t'enveloppe, mais de loin. Le talit, il t'enveloppe de proche. T'envelopper. Ça veut dire quoi, envelopper spirituellement? Être enveloppé de quelque chose, ça veut dire quoi?
Entouré.
Vous vous dites protection. Non, parce que, non, je suis désolé, c'est pas là, parce que si on dit protection, c'est pas envelopper. Protection, ça veut dire que c'est une sorte de, c'est pas envelopper. Je dis pas que je me suis enveloppé d'un, comment on appelle ça, ce qui protège d'un bouclier. On s'enveloppe pas d'un bouclier.
C'est un cocon.
Ouais, non, attendez. Le talit, on s'enveloppe avec le talit. Avec un bouclier, on se protège. Donc le talit n'est pas un bouclier. Le talit est quelque chose avec lequel on s'enveloppe. S'envelopper de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye de prendre quelque chose, j'essaye de me rentrer dans un état d'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je m'enveloppe de quelque chose, je m'enveloppe. On dit par exemple que j'ai enveloppé quelqu'un d'amour. Ça veut dire quoi, envelopper? Ça veut dire que je l'entoure un maximum possible. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le talit, qu'on fait encore avant les tefilines, parce qu'après on va expliquer les tefilines. Qu'est-ce que je fais avec le talit? Je m'enveloppe. Ça veut dire quoi, je m'enveloppe? Déjà, il y a un message. Un message, d'accord? Subliminal, mais un message auquel je dois penser. Le talit t'apprend que tu dois t'envelopper de Dieu. Dieu n'est pas présent dans ta main. Dieu n'est pas présent dans ta tête. Dieu n'est pas présent dans ton cœur. Dieu, il t'enveloppe tout ton être. Il est partout. C'est-à-dire, ça déjà, c'est l'idée que je peux avoir en une fraction de seconde quand je m'enveloppe du talit. Je me dis, tu vois le talit? Tu vois comment le talit, il t'enveloppe? Il te lâche pas le talit. Il faut bien savoir que la mitzvah du talit, c'est pas quand je le porte version bar mitzvah, tu vois. La mitzvah du talit, c'est quand je le prends et je m'enveloppe. Quand je m'enveloppe, ça veut dire que je m'enveloppe, comme les Arabes. C'est le dernier mot de Shranaour. Ça veut dire que quand quelque chose t'enveloppe, tu peux pas le lâcher. Il te lâche pas. Il t'enveloppe. Il te prend, il t'entoure.
C'est quoi version
bar? C'est les talits écharpes, là, tu vois.
Ah oui, hein? 50 ans, hein? Ça veut dire.
Pas cachère, ça vaut zéro. Talit écharpe, design comme ça, Hermès. C'est pas la mienne.
Quand j'étais petit, ma bar mitzvah, j'ai eu ça.
L'écharpe, Hermès. On se manquait.
C'était caché à l'époque.
Pourtant, il est demandé, c'est pas cachère.
C'est cachère, à la limite, si on l'étend et si on fait en sorte que ce châle, d'accord, il couvre la majorité du dos.
Bah oui.
Mais quand je vois les gens comme ça bar mitzvah, d'ailleurs, j'ai fait la remarque quelquefois, d'accord, pas ici, ils le savent déjà, mais. Quand tu vois un bar mitzvah que tu écoutes, c'est dommage, le jour de ta bar mitzvah, fais les choses bien.
Ouais, ouais.
Il faut l'étendre derrière, tu vois. Tellement comme il a envie qu'on voit le costume, parce qu'il y a un beau costard derrière. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc, ouais, comme une écharpe. Mais, sauf que le talit, il l'a pas mis, il a mis une écharpe. Bon, c'est bien une écharpe, pourquoi pas?
Ah non, moi je parlais du. Excusez-moi.
C'est caché, je parlais des longs, là.
Quand j'étais à bar mitzvah, on m'a offert le. C'est un talit, c'est une espèce d'écharpe comme ça en soi qui est.
Oui, je connais, pas, on le connaît.
Simple,
ouais.
Ouais, mais c'est ça fait à l'époque, c'est.
Elle
était large comme ça, comme une grande écharpe.
Non, ce que j'ai vu, moi, c'est large comme ça, c'est pas cachère.
C'est
pas cachère.
Il
faut que ça couvre la majorité du dos. Bon, donc reprenons notre sujet. Qu'est-ce que je fais avec le talit? Je m'enveloppe. Quelle est l'idée qu'il y a derrière le fait de s'envelopper? Bien sûr, je le fais parce que Dieu m'a demandé, mais quelle est l'idée qu'il y a derrière? L'idée qu'il y a derrière. C'est que je m'enveloppe de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar a des mots très forts qu'on va lire tout de suite. Le Zohar nous dit que quand je m'enveloppe avec le Talit, à ce moment-là, je m'enveloppe de la lumière d'Hachem. Donc David tout à l'heure, il a dit que quand je mets le talit, je me mets en condition, tu as dit. Il a raison. Là, c'est plus qu'en condition. Parce que quand tu te mets en condition, par exemple, je veux mettre en condition sportive. Donc je mets des vêtements de sport. Je mets un short, un jogging, je mets des baskets, etc. Bon, position de sport. Mais si on va essayer de pousser un petit peu, pour reprendre ton exemple, David, les baskets m'ont pas rendu sportif.
Crois-moi que celles que je joue au pied, elles te rendent sportif.
Non.
C'est sûr que c'est...
C'est
bon, il
faut aller courir. Les baskets,
mais...
elles te rendent pas sportif.
Non, c'est
bon. Les baskets, elles te mettent dans un état d'esprit que tu as déjà, en toi, qui est sportif. Mais là, le talit, c'est plus fort. Le talit, c'est pas seulement que le talit, il te met en condition. Que je me mets en condition, c'est plus que ça. Quand tu mets le talit, d'accord, c'est pas seulement que ça te met en condition. Ça te met tout court. Ça te met dans un état d'esprit de Kdoucha. Ça amène la Kdoucha sur toi. Ça, c'est ce qui passe quand tu mets le talit. D'ailleurs, c'est pour ça que les Ashkenazim mettent ça qu'à partir du mariage. Parce que c'est un niveau, il faut être au niveau de capter ça. De comprendre que le talit, il t'enveloppe de Kedusha. Quand tu t'enveloppes du talit, tu t'enveloppes de la Kedusha d'Hachem. Et que ça, évidemment, quand t'es enveloppé de la Kedusha d'Hachem, c'est plus facile de parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu à 15h45, tu peux si tu veux. Mais quand tu t'es mis en condition, et c'est plus que te mettre en condition, quand tu t'es enveloppé de la présence d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, t'es porté par le talit. Donc t'es un... C'est tout ça, c'est des aides, c'est des symboles pour t'aider à comprendre et à réaliser ce que tu es en train de faire. Réaliser, je suis en train de parler avec Hachem. Une fois, il y a un rave, il avait l'habitude, chaque jour, après, dès que la midah était terminée, dès que la midah était terminée, hein, avant la chazara, il allait voir personnellement chacun des fidèles, il lui disait shalom aleichem, bonjour, bonjour. Alors une fois, il y a un fidèle qui a dit, mais rave, je comprends pas, pourquoi vous me dites bonjour après la fin de la Mida. Bon, de toute façon, c'est vu au début de la prière. Je vous ai dit bonjour. D'accord? Il lui a dit, tu sais pourquoi je vous dis bonjour? Il dit, parce que toi, pendant ta Mida, t'es parti en Amérique. Toi, t'es parti en Israël. T'es parti. Alors, je lui dis bonjour, t'es revenu. Voilà. Une blague, évidemment.
Non, mais c'est vrai que des fois, tu penses à.
Ah oui. Mais bon. Vous savez, les meilleures idées tombent pendant la Mida. C'est la vérité, ça. C'est écrit, ça. Parce que le Satan, il fait tout pour te déconcentrer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que t'es concentré dans ta tête fila, il faut qu'il te sorte un gros truc pour te déstabiliser. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te met des idées. Ah oui, tiens, j'ai oublié de faire ça. Et tu mets, tiens, en plein amida, qu'est-ce que tu penses à ça maintenant? Ah oui, mais j'ai oublié de faire ça. Hop, c'est fini. Il t'a happé pour le reste de l'amida. Le reste, c'est du blablabla. Mais t'as pensé à l'ailleurs. C'est vrai, finalement, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de te concentrer 3 minutes, 4 minutes. Rester concentré 4 minutes à ne pas penser à autre chose, penser à ce que tu dis. C'est tellement compliqué. 4 minutes. Qu'est-ce qu'on a demandé? 4 minutes. 5 minutes. C'est bon? 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a
demandé? Il nous sauve 24 heures.
Il faut y aller avec
que la mida. De côté, il te met des petits pièges. Que la mida s'appelle les
trop facile. C'est trop facile sinon.
Sinon, c'est pas un effort.
Ah oui? Sinon, c'est pas un effort.
Tu as du mal déjà à penser à Dieu, tu vas
bien sûr, c'est du boulot.
Tu as du mal à penser à Dieu, il t'envoie des guet-apens.
Non, c'est pas des guet-apens. Non, c'est pas des guet-apens. Pas du tout. Il te forme, Dieu. Dieu, il te forme. Comment on forme quelqu'un? Vous connaissez le sport. Quand vous voulez former quelqu'un, il faut lui mettre des pièges. Pas des pièges, des situations difficiles. Si tu le formes directement, tu lui mets des situations où tout est tracé. Bah oui, mais tout est tracé. Vous savez, en Russie, il y avait un endroit dans lequel, voilà comment on faisait. Prenez une flèche, tirez. D'accord, vous êtes dans ce métier. Le métier des armes. Il prenait une flèche, il tirait. Et après, une fois que la flèche est arrivée à destination, on dessinait autour de la flèche la cible.
Ah, tricher, voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, tu peux, si tu veux faciliter le travail, tu dis voilà, toi tu tires où tu veux et moi je te fais la cible autour. Mais ça marche pas comme ça. Il y a une cible qui est déjà là. Il faut y arriver. Elle est compliquée, la cible. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, on t'aide un petit peu au début. Après, on arrête de t'assister. Il faut que tu travailles avec tes propres moyens. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu fais là. Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi t'es venu là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es venu faire une prière? Et donc, je disais qu'on va parler maintenant de tzitzit et tefillin. Alors, on y va. Vegam it bonen. Je suis à deux paragraphes avant la fin de la page 230. Vegam it bonen. Aussi, il va réfléchir. Erche oran savoro, asav kolomio kolalim, rosan elion, ou me loubash boti adhormata Torah. Il dit, regarde. On est en train maintenant d'étudier un texte de Torah. est-ce que tu t'imagines que dans ce texte de Torah qu'on étudie, il y a Dieu qui est habillé dedans? Il y a la pensée de Dieu qui est habillée dedans. Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple, Michael Ben David, il écrit un livre.
Non.
Eh bien, hein? Quoi? Il écrit un livre. Maintenant, ce livre, il lui prend du temps. C'est, ne croyez pas qu'un écrivain, il écrit comme ça. Ça lui prend du temps. Il met toute son âme dedans. Et il prend, il réécrit, il corrige, etc. Bon. Maintenant, quand Michael Ben David, qui a écrit ce livre, il a pris 4 ans pour écrire ce livre, et après, il relit ce livre. Quel sentiment il a quand il relit ce livre? J'ai mis une partie de moi-même dedans. Je me suis mis dedans. Et lorsqu'une personne est en train de lire le livre de Michael Ben David, qu'est-ce que Michael Ben David en pense? Hein? Je t'ai rendu auteur, là. Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là, Michael? Michael, il pense, il dit, tu t'imagines, il est en train de lire une partie de moi maintenant. Il lit ce que j'ai écrit. C'est moi qui ai écrit ce texte. C'est ma pensée, c'est ma façon de voir les choses. Il est en train de lire mon texte. Je me suis mis dedans. Maintenant, imaginez, à la place de Michael Ben David, on va mettre Dieu.
C'est mieux.
D'accord? Dieu, il veut parler. Dieu, il veut parler. Et Dieu, il a parlé.
Le livre.
Et il a mis sa pensée dans la Torah. Toute sa pensée, il a pris la Torah, etc., depuis la création du monde. Ça veut dire qu'avant même de créer le monde, il a créé le plan. C'est quoi le plan du monde? C'est la Torah. Et tout le reste, c'est du décor qu'il a créé pour arriver, pour arriver au don de la Torah. Donc, Dieu, il s'est mis dans la Torah. C'est pas cette âme. J'aime pas cette Torah, c'est juste, bon, il a écrit, tu feras ci, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Rappelez-vous le cours de ce Shabbat. La Torah, c'est pas des histoires. La Torah, Dieu, il s'est mis dans la Torah. Chaque mot de la Torah est un enseignement. Donc, est-ce que déjà on s'imagine, quand on est en train de lire un texte de Torah, de Chumash, même un texte de Torah, qu'on est en train de lire la pensée de Dieu? Ça veut dire que, tu vois, Dieu, il s'est habillé dans un texte. Et moi, je suis en train de prendre ce texte et au travers de ce texte, voir ce que Dieu veut dire. De la même façon que l'écrivain qui a écrit un texte, cet écrivain s'est habillé dans ce texte, il enveloppe ce texte. De la même façon, Dieu, il a écrit un texte. Ce texte, c'est la Torah. C'est pas un texte de Moïse. Moïse, il n'a fait que retranscrire ce que Dieu lui a dit. Mais ce texte, c'est un texte de Dieu. Donc quand moi, je lis un texte de Torah, je lis un texte de Dieu. Imaginez déjà comment ça fait flipper quand tu entends ça. C'est-à-dire, tu touches un chromage, tu lis un texte de Dieu, là. Là, t'es en train de toucher du Dieu, là. Tu vois. Là, tu prends du Dieu, t'es en train de prendre Dieu et de le mettre dans ta pensée.
Car moi, je suis pas très dur, parce que quand même, Dieu, il parle beaucoup.
Non, mais t'imagines ce que ça veut dire? Même la Gemara Mishnah, c'est la Torah orale, c'était différent. Mais tu prends la pensée de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que je vais nous faire, là, maintenant? Je vous ai pas raconté des histoires. C'est la vérité, ce que je vous ai dit. Seulement, on n'y pense pas. On prend pas le temps d'y penser que Chumash et qu'un texte de Torah, c'est la pensée de Dieu. Je pense pas à ça. Mais c'est la vérité. Et quand tu réfléchis à ça, tout de suite, tu prends une autre dimension. Tu as un autre respect envers la mitzvah. Vous voyez comment une petite réflexion avant de commencer, tout de suite, ça te change tout. Par exemple, quelqu'un il est monté au Sefer Torah. Bon, il est monté au Sefer Torah. Est-ce que tu as pensé ce que ça veut dire monter au Sefer Torah? C'est quoi un Sefer Torah? À quoi ça sert un Sefer Torah? La sainteté d'un Sefer Torah? La doucha que ça t'amène sur toi? Ah, il est venu, il est monté, il a fait sa bénédiction, il a payé sa montée, il est venu. Ah, très bien, t'as acheté une montée, Mazel Tov. Tu peux acheter le fait de monter à la Torah. Mais tu peux pas acheter le fait que tu vis ta montée. Ça s'achète pas. Ça, ou t'es dedans ou t'es pas dedans.
Tu m'expliquais dans le Yavionium cette semaine que pour vivre, il fallait donner la tzedaka.
Oui, la tzedaka, ça aide.
Ou bien étudier la halakha.
Mais ça s'achète pas, ça. Il a acheté une montée à la Torah. Bon, très bien, il a acheté.
Plus facilement la...
T'as acheté une montée. T'as acheté le fait de marcher avec tes pieds pour venir devant un Sefer Torah. Mais t'es passé à côté de la plaque.
Comment il faut la vie? Hein?
Comment il faut la vie? Il faut se préparer. Il faut se préparer à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toucher un texte sacré. Je vais toucher un texte qui a été écrit par Dieu. Je vais toucher un texte dans lequel il y a une kedusha, que c'est la même kedusha comme si c'est Moïse qui l'avait écrit. Je vais toucher un texte qui a une kedusha du Saint des Saints. Je vais toucher un texte que même toucher le parchemin, j'ai pas le droit. J'aurais tremblé quand je m'approche du Sefer Torah. Ah, le gars, il est ailleurs. Il est en train de penser combien il va donner au don le Mishé Berach après. Bon. Ouais, bien. Et qu'est-ce qu'il va demander le Mishé Berach?
Est-ce qu'on connaît le niveau d'approche de Dieu du Matan Torah d'Israël? Le niveau, parce que Dieu s'est révélé. Quel niveau faut atteindre pour que Dieu se révèle?
On a entendu sa voix.
Quel niveau il faut atteindre?
Quel niveau, ouais. C'est quoi le niveau? Nous, on est au Tania, on a une heure. Ok? Il faut des heures et des heures. Le niveau du moment.
Il y a pas, c'est pas, ça on peut pas décider de ça. C'est pas.
T'es d'accord avec moi?
J'ai compris, non, j'ai très bien compris la question.
Il faut qu'il y ait devant lui une quantité de gens. Voilà,
je vais vous répondre.
C'est quoi le niveau?
Dieu, il s'est déjà révélé.
40, 50,
il n'y a pas besoin. Dieu, il s'est déjà révélé. Il vous a déjà donné.
Non, mais attends.
Non, mais
dans ces conditions-là.
Mais écoute, non, mais écoutez bien ce que je dis.
On l'attend.
Non, mais je comprends. Dieu n'a pas besoin de. Qu'est-ce qu'il voulait que Dieu arrive ou fasse du Spielberg? Il t'a déjà parlé. Il t'a dit, voilà, je t'ai parlé. J'ai mis mon essence dans un texte. Lis ce texte, tu me prends à moi. C'est ça. On croit qu'il y a des complications, il faut chercher, il faut qu'il te fasse des effets spéciaux, et je suis l'éternel ton Dieu. Il te l'a dit déjà. Seulement quoi? Comme on a l'habitude d'ouvrir la Torah et que c'est tellement accessible, on dit, ouais, bon, c'est, non, nous on veut du vrai, on veut des effets spéciaux.
Mais
t'as pas besoin des effets spéciaux. Ça veut dire que la Torah, déjà, quand tu étudies la Torah, tu touches déjà à Dieu. Tu prends Dieu avec toi.
Mais avec une heure de Tania, c'est pas ça, c'est pas
non, mais...
que c'est
pas. Il est déjà là. Je fais juste tout ce que je fais.
C'est pas en laissant une heure, c'est bon, il va venir, on est 12, on va tout venir.
Regarde,
oui.
La question.
Allez-y.
C'est pas suffisant.
On a pas reçu ton abonnement.
T'arrêtes les pizzas.
Attends. On a pas reçu ton abonnement. Il y a deux choses. Il y a la Torah et la Tfila.
Là, ça va venir.
Il y a un lien. Mais en fait, le matin, il y a que deux jours, trois jours. Il y a que trois prières, trois fois par semaine qu'on s'en va se faire.
Oui.
Ça sera pas le donc le matin.
Attendez, j'arrive pas à entendre. Seconde.
En dehors du lundi, du jeudi, oui. Du Shabbat, on sort pas le Sefer Torah. Donc parlons du juif qui arrive à la choule et qui va faire ça. On sort pas de Sefer Torah. Bon. Il y a pas, je dirais, le voilà.
D'accord. Il y a pas le rituel, le folklore.
Voilà. Bon, ouais. Or, quand on connaît un peu, on sait que par exemple la Nida a été mise en forme par les sages.
Oui.
Donc on peut dire, finalement, comme vous dites, je suis dans un texte de littérature, d'accord, c'était des grands maîtres, c'était le Sanhédrin, c'était les maîtres d'une génération, mais au fond, ils ont codifié une fila, voilà.
Oui.
Parce que la vraie difficulté, c'est celle-là, c'est le comment on sort le Sefer.
Je vais vous expliquer pourquoi ils ont codifié.
Non, mais j'ai eu raison, parce que chacun savait pas.
Exactement, parce qu'à la base, la prière, c'était pas codifié.
Voilà.
À la base, la prière, c'était chacun qui parlait, qui laissait son cœur parler. Mais les sages se sont rendus compte qu'avec le temps, les gens étaient moins inspirés. Parce qu'il faut être inspiré tous les matins pour savoir quoi dire à Dieu. Imaginez que je vous dis maintenant, vas-y. Voilà. C'est ton heure de gloire, parle à Dieu. T'as 5 minutes pour parler à Dieu. Qu'est-ce que tu lui dis?
Je ne sais pas.
Tu sais pas? Je sais même pas quoi demander.
J'ai tellement de choses, je ne sais pas.
Je sais même pas. D'abord, je sais pas comment demander, je sais pas quoi demander, je sais pas quel mot dire, etc. C'est pour ça que les sages, comme ils ont vu que le peuple avait du mal, donc ils ont codifié. Mais c'est pas parce que les sages ont codifié que maintenant on va rendre la prière que c'est quoi la prière? C'est un moment dans lequel on lit un texte. Mais non, c'est pas ça la prière.
Mais je sais bien, mais c'est difficile justement. C'est pas la même chose parce que quand vous dites si on monte au Sefer Torah, bon, on a le Sefer Torah, on a le lettre, on a, vous voyez ce que je veux
dire. On s'habitue à tout. Moi je lis le Sefer Torah. À tout on s'habitue. On s'habitue à tout. C'est une question de simatlev. Simatlev, c'est-à-dire c'est une question d'attention. Cette semaine, c'est la libération de Rabbi Yosef Yitzhak, ce jeudi. Et Rabbi Yosef Yitzhak dans ses Ma'amarim, qu'on étudie d'ailleurs tous les Shabbat matin, Rabbi Yosef Yitzhak dans ses Ma'amarim, il parle beaucoup de l'importance de Simat Lev, l'attention. Il dit que si on faisait attention, pas attention dans le sens je fais attention, si on prêtait attention à ce qu'on faisait, on éviterait la majeure partie des problèmes. La majeure partie des problèmes qu'on a avec Dieu, la majeure partie des problèmes qu'on a avec les hommes, prêtez attention. On ne prête pas attention. En général, à quel moment on prête attention? Une fois qu'on a déjà raté la situation, là, et là, quand il y a un problème, je dis « Ah, j'aurais dû faire comme ça ».
C'est le vie idéale, ça n'existe pas.
Mais c'est l'effort qu'on a à faire. Pourquoi ça existe? Bien sûr, ça existe. Et c'est pas compliqué ce qu'on demande. C'est juste simple. C'est quelques secondes d'attention. On te dit, avant de faire ce que tu fais, prends quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous donne un exemple. D'accord? Moi, par exemple, je parle à mes enfants. J'aurais parlé tout à l'heure à mes enfants. Je leur ai expliqué qu'il y a 2 mois de vacances qui arrivent. Bon, il y aura le centre aéré, etc. Et je leur ai dit, il faut que chacun ait un programme. Bien sûr que dans les vacances, on va jouer, etc. Mais il faut que chacun ait un programme. Ça veut dire que c'est pas si tard on se réveille maintenant, on sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Non, on sait pas. Est-ce qu'on va avoir des films? Est-ce qu'on va tourner en rond? Est-ce qu'on va faire? On sait pas ce qu'on va faire. D'accord? Ah, ça c'est calme, ouais. Ah, ça c'est calme, d'accord. Calme, d'accord. Et ça, ça marche pas comme ça. Évidemment, quand tu brasses du vide, tu as du vide. Mais quand dès le départ tu te prépares, tu dis bon, j'ai 2 mois de vacances, je vais profiter, etc. Mais qu'est-ce que je vais construire pendant ces 2 mois? Qu'est-ce que je vais faire? Essaie de faire un plan. Tu dis voilà, je sais que tous les matins, je vais faire ma tefila, après je vais avoir une petite étude, etc. T'as déjà un plan. Quand t'as un plan, quand tu te prépares à quelque chose, c'est différent. Pourquoi vous croyez qu'au Rosh Hashanah, on arrive tellement à vivre? C'est bientôt Rosh Hashanah. Pourquoi on arrive tellement à vivre Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, on se prépare. Pendant un mois, tu te prépares. Donc quand Rosh Hashanah, il arrive, t'es prêt. Tu dis, c'est bon. Maintenant, je peux parler à Dieu. Imaginez maintenant que directement, on rentre des vacances, tu vois, directement du mois d'août. On dit, ah, Rosh Hashanah, parler à Dieu, jugement, etc. J'arrive pas à lui parler, qu'est-ce que je lui dise? Mais quand on t'a préparé, tu arrives. C'est-à-dire tout est une question de, pour répondre à la question que M. Yazdi, tout est une question de préparation. Préparation, mise en condition, réflexion. Réflexion de quelques secondes, pas besoin de réfléchir beaucoup. Il faut pas se perdre. Faut comprendre pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je fais là, où je vais. C'est quoi? C'est comme si vous êtes, par exemple, vous êtes commercial. Bon. Vous avez fait des pieds et des mains pour décrocher un gros rendez-vous. Un rendez-vous dans lequel vous pouvez vendre du lourd. Très gros rendez-vous. Donc vous avez passé des coups de fil et vous avez pris du temps, etc. Ça vous a pris un temps fou. À la fin, vous arrivez devant le client, l'acheteur. Vous arrivez devant lui. Maintenant, tu peux pas directement venir lui dire « Bon, je suis venu pour te vendre un produit, achète-le. » Comment on fait? D'abord, bonjour, comment ça va, le café, etc. et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe, le bonhomme? Il a fait tellement des pieds et des mains pour avoir ce rendez-vous, il se perd dans le café. Et il parle, et comment va la famille, et comment vont les enfants, et comment ça va ci, comment ça va ça, entre-temps, le sablier, d'accord? Et entre-temps, ça avance. Le gars, il a oublié pourquoi il est venu. Il dit, mais attends, dis-moi, pourquoi t'es venu ici? Pourquoi t'es venu ici? T'es venu pour voir comment ils vont ses enfants? T'en as rien à faire, ses enfants! Bon, excusez-moi du terme, mais... T'es venu pour bosser, t'es venu pour vendre, t'as vendu ou t'as pas vendu? C'est bien ces enfants, pourquoi pas? D'accord? Mais en tout cas, toi, t'es pas venu pour ça. T'es venu pour vendre. C'est la même chose. Et quand il est venu, pourquoi t'es venu faire la prière? C'est-à-dire, tu peux faire plein de choses annexes autour. Plein de choses intéressantes qui sont peut-être débutants en soi. Mais c'est pas pour ça que t'es venu. Pourquoi t'es venu? T'es venu pour parler à Hachem. Ça veut dire que si je fais une prière, et je sens à la fin de la prière que j'ai pas parlé à Hachem, je suis passé à côté. Bon, j'ai raté cette fois-ci, je vais réessayer tout à l'heure. Il y a trois trains qui partent par jour. T'as raté le premier, t'auras le deuxième. T'auras le troisième. Mais c'est pas possible qu'on passe une prière et que je passe et je sens pas que j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu. Vous comprenez ma question? C'est quand la dernière fois qu'on a fait une prière, qu'on l'a senti, aujourd'hui j'ai parlé à Dieu? C'est quand la dernière fois, David, que tu as eu ce sentiment? Hein? Tu vois? Pas mal. Mincha, tu l'as pas eu ce sentiment. Mais Jacharie, tu l'as eu. Il a senti qu'il parlait à Dieu. Comment tu te sentais avant de parler à Dieu?
Bien.
Hein? Comment on se sent après qu'on a parlé à Dieu? T'as parlé à Dieu, comment tu te sens?
Tu t'inquiètes bon du
hein? Tu te sens bien? Pourquoi tu te sens bien? Tu sens que t'es déchargé d'un fardeau? Tu sens, j'ai parlé avec Dieu. Je lui ai dit ce qui me dérangeait, je lui ai dit ce que je voulais faire, je lui ai dit, j'ai parlé. Je lui ai dit ce qui me pèse sur le cœur. Tu lui as parlé, tu te sens mieux. Donc là, c'est pour ça on te dit, quand tu étudies un texte de Torah, hein, tu dois te rappeler que dans ce texte de Torah, qui c'est qu'il y a? Il y a Hachem dedans. Et pourquoi avant de faire la tefila, je veux mettre un talit? C'est quoi le rôle du talit? À quoi il sert le talit? Pourquoi on met un talit? Pour
s'envelopper.
S'envelopper de quoi?
La présence divine.
Oui, mais c'est du folklore, etc. Pense dans ce que tu veux, c'est la réalité. Tu es en train de t'entourer, de la présence de Kadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, c'est des petites choses, c'est pas des choses compliquées. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, chez les Chassidim, on explique beaucoup l'importance de Hit Bonenout. Vous avez remarqué que le samedi matin, Shabbat matin, on fait un cours de Chassidut avant la Tfila. Dans la majorité des synagogues du monde, à quelle heure on commence Shacharit Shabbat matin?
7h30.
Non, pas en France, pas en France. En France, entre 8h30 et 9h. D'accord? En France, je parle. En France, on est des lève-tard. À quelle heure on commence à quelle heure la majorité des synagogues dans Paris? 8h30, 9h.
Plus tard, 9h.
D'accord? 9h.
10h.
Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On vient ici. Donc, bon, on commence à 9h, d'accord? Mais on commence pas la prière. On fait un cours.
On se pose.
Mais pourquoi tu fais un cours?
Pour se mettre en condition.
Quel rapport le cours maintenant? D'abord, fais la prière. D'abord, tu parles à Dieu, après, tu fais le cours. Pourquoi tu fais d'abord le cours, après tu fais la prière?
On appelle ça un échauffement.
Ben exactement. Il faut savoir que c'est pas un cours pour étudier la Torah. Le but de ce cours n'est pas d'étudier la Torah. Parce que si tu veux étudier la Torah, tu dois le faire après la prière.
Ça. On peut le faire de 8 à 9 aussi.
Le but de ce cours... Ouais, mais...
Pas du 8 à 9.
Ben encore faut-il que les gens soient là.
Il y a 9h déjà, c'est bien. Du mal à 10h, même à
10h. Mais... Non, mais sérieusement.
Non, c'est vrai.
Pourquoi on étudie? Pourquoi on étudie? D'accord, on étudie parce qu'on essaie de se mettre en condition. Normalement, quand on était à la Yeshiva, tous les matins, vous entendez? Quand on était à la Yeshiva, tous les matins, avant la tefila, on étudie minimum 1 heure. Et des jours, 1h30. Avant même de commencer d'ouvrir la poche de tefilin. 1 heure d'abord, t'étudies. Mais qu'est-ce qu'on étudie? On n'étudie pas de la Gemara. On étudie des textes de Chassidut. Parce que, dans quel texte de Chassidut on sélectionne? D'ailleurs, vous le remarquerez, c'est ce qu'on fait Shabbat matin. On va sélectionner des textes de Chassidut, ou de pensée juive, qui nous font penser à la grandeur de Dieu. C'est ça. On aurait pu faire du Shulchan Aruch, on aurait pu faire de la Mishnah, on aurait pu faire de la Gemara. Ça, tu fais après la prière. Qu'est-ce que tu fais avant la prière? Avant la prière, tu vas étudier des textes qui te mettent en condition pour penser à la grandeur de Dieu. Pour pas commencer la tefila à sec. Normalement, on devrait faire ça tous les jours. Tous les jours, on devrait faire ça. On devrait faire une étude avant la tefila.
On fait du mois.
Tous les jours. Une étude, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Seulement, comme dans les faits, les gens sont occupés, alors on va essayer de le faire au moins hein, tous les Shabbats. C'est-à-dire, c'est pas Stam. Ils sont loubavites, ils voulaient commencer une prière à 10 heures. Seulement, bon, ils ont calé un cours avant. Je cale pas un cours pour caler un cours. Ça n'existe pas. On met un cours avant pour se préparer à la prière. Ça, c'est le but du cours.
Le but, c'est quand même la
prière. Ça, c'est le but du cours. Et chacun peut le savoir. Chacun peut le voir. Moi, je le vois chez moi. Je suis sûr que vous pouvez le voir chez vous. Que une prière qu'on fait après avoir étudié la Torah, un texte qui parle de la grandeur de Dieu, et une prière qu'on fait à sec, comme on fait tous les matins, ça n'a rien à voir.
Ah ouais.
C'est le jour et la nuit.
Bah c'est ça, c'est un échauffement. Tu commences à courir
oui.
Dès le départ, sans échauffement, tu fais un claquage.
Ouais.
C'est ça.
C'est échauffé,
c'est
se mettre en condition.
Les grands joueurs de foot, ils vont s'entraîner une heure avant,
oui,
deux heures avant.
Bien sûr. Tu les vois, ils sont déjà en... Il ne peut pas le bonhomme se lever à 5 heures du matin et tout de suite jouer. Il ne peut pas.
Je vous invite à venir une heure avant.
Oui,
c'est la vérité,
l'idéal pour certaines personnes comme moi, par exemple, c'est de nous faire
un cours
pour
la vie.
Sur la
le train déjà parti, vous pourrez prendre le wagon.
Je fais un cours dessus pour nous expliquer.
Philippe, tu veux pas.
La racine, justement. L'ADN de cette prière, qu'est-ce que c'est que cette prière qu'on fait? Parce que moi, je la fais. Ok, tu vas me dire, ok, je la fais, mais je ne comprends pas le strict mot.
Pardon.
Parce que il y a le caddie, j'ai préparé.
Vous avez raison.
J'ai écouté en français,
mais
j'ai traduit.
Je vous expliquer, Joseph.
Quand je le fais, le caddie, je sais ce que je dis. Il y a des mots qui me viennent par rapport à ce qui a été traduit par le rabbi, machin. Mais ce qui est intéressant, c'est de pour qu'on rentre un peu plus dans la prière, il faudrait qu'on la comprenne. Oui,
bien attention, sûr. C'est très juste ce que vous dites, mais je vais vous dire quelque chose.
C'est très difficile.
Joseph, je vais vous dire quelque chose.
Alors je suis
comprendre ce qu'on fait, c'est très important. Mais je parle de quelque chose qui est, je parle de quelque chose qui est beaucoup plus simple que ça. Je vous demande même pas de comprendre ce que vous allez faire. Attendez, une seconde. Je vous demande même pas de comprendre le texte que vous allez lire. Ce qu'on demande pour l'instant, c'est de prendre conscience de ce que je suis en train de faire. Voilà.
Je suis d'accord.
Maintenant, il faut bien comprendre. C'est qu'une personne qui vient pas en général à la synagogue le matin, le jour où il vient, il sait pourquoi il est venu. Et lui, il prend conscience. Ça, c'est le problème dont je vous parle aujourd'hui, c'est un problème qui concerne surtout les habitués. C'est-à-dire que le juif qui vient pas tous les samedis à la synagogue, lui, quand il vient sa nuit, je vous garantis qu'il est dans la prière. Plus que moi. Parce qu'il est dedans, il sait pourquoi il est venu, bonhomme. Il est venu parce que c'est la date de son grand-père, sa grand-mère, je ne sais qui. Bon, très bien, il est venu. Au moins, il est venu. Mais quand il y a quelqu'un qui vient tous les samedis, tous les shabbats, qui vient tous les matins, c'est la routine. Quand on est dans la routine, c'est difficile à sentir qu'on est dedans. Et c'est là qu'il y a un effort pour te rappeler de dire, rappelle-toi pourquoi t'es venu. T'es pas venu pour par routine, t'es pas venu pour passer le temps, t'es venu pour une raison. T'es venu pour parler à Hachem. Est-ce que tu as parlé à Hachem ou t'as pas parlé à Hachem? Ah, c'est écrit, Bayom achta asarium, Nassil vine Asher, le 11 Nissan. C'est écrit que le 11, c'est le Nassil vine Asher. C'est le chef de Asher. Et le Midrash raconte un exemple. Il dit, il y a une fois un roi, et qu'il y a des gens qui sont venus voir ce roi. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Avant d'arriver chez le roi, en tout cas, c'était comme ça à l'époque, tu passes par beaucoup de portes. Ça, c'est comme on va dans les musées aujourd'hui. C'est-à-dire, d'abord, et chaque hall par lequel tu passes, c'est énorme. Maintenant, toi, t'es venu pour aller voir le roi. Mais tu viens d'un monde qui est très simple. Quand tu rentres dans ce monde et tu rentres dans cette gloire, et plus tu avances dans les eaux, et plus c'est sophistiqué et recherché, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gars, il s'arrête. Il va même pas chez le roi. C'est-à-dire que le gars, il se perd dans les décors. Et le temps qu'il se perd dans les décors, il passe 3, 4, 5 heures pour lui dire, monsieur, c'est fini, vous êtes terminé, rentrez chez vous. Parce que le gars, il était pas concentré, il sait pas pourquoi il est venu. Il a pas compris qu'il est venu pour parler à Dieu. Le décor, c'est bien, mais c'est du décor, tout ça. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les mitzvot, il y a beaucoup de décors autour. Il faut pas se perdre dans le décor. Le décor est important, mais il faut pas se perdre dans le décor. Le décor, c'est comme je vous dis, c'est les pioutimes, c'est est-ce qu'on a chanté tel air, est-ce qu'on a chanté tel air, qui était assis à côté de moi, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait, hein, quoi?
Honnêtement, l'air marocain, c'est un kiff.
Bon, on est venu pour kiffer. Tu veux kiffer? Il y a des façons de kiffer. On va donner des façons de kiffer. Non, c'est ce que je dis. C'est très important. Mais ça, c'est un problème que chez l'Ashkenaz. L'Ashkenaz, ils ont beaucoup la chazanout. Si je viens à la synagogue et qu'il y a une petite voix au fond de moi qui me dit, ouais, aujourd'hui, il y aura un beau chantre, on va kiffer. Je suis passé à côté. Et la vérité. Complètement à côté. Je vous dis ce que dit Shulchan Aruch. Aujourd'hui, il y a des synagogues dans lesquelles, pour Rosh Hashanah et Kippour, on va chercher un chantre qui a une très belle voix. Ouais. Et on va dire, ah, la prière aujourd'hui, quel kiff, il avait une belle voix. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa belle voix, le bonhomme?
Il kiffe, le mec.
Il kiffe, il est venu pour kiffer, le bonhomme.
Va à un concert
pour kiffer. Non, le Shulchan Aruch dit, la chose suivante. Le Shulchan Aruch dit que le Chazan, surtout pour les fêtes, il doit avoir une voix qui est audible, qui est agréable, pour pas que ça dérange. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit, parce que sinon ça risque de déconcentrer. Ça c'est écrit. Mais, de là à dire, on est venu pour faire un kiff, pour prendre quelqu'un qui va s'entraîner pendant des années, pour être là, pour me faire une belle voix, pour nous faire kiffer. T'es venu pour kiffer. Il y a d'autres façons de kiffer. Va à un concert.
Ouais, mais la prière, c'est des louanges, des louanges.
Ah, non, 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 on raconte pas des histoires.
Comment ça, c'est des
louanges?
C'est des louanges, c'est des chants.
Eh bien.
Non,
de répondre à la question, je réponds à la question de David.
Comment tu parles? Tu veux parler à Kadosh Baruch Hu si tu lui parles à Kadosh Baruch Hu d'une voix monotone?
Ok. Ça, d'accord. Si, tu vois ça comme ça. D'accord, non, d'accord, d'accord.
C'est comme tiens, avec le commerçage, tu
si,
me prends un paquet de bonbons.
Honnêtement, je pense que la majorité des gens ne sont pas dans cet état d'esprit. Honnêtement, de ce que je réponds à la question.
Demain, tu ne vas pas chanter bonjour, monsieur le président. Je suis nu.
Non, pourquoi pas? Non, ça peut être un récital qui est très joli.
Je vais m'habiller. Attends,
c'est grave. Non, 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 il a raison, il a raison. Ça peut être un. Le cérémonial est très important.
Comment il a fait le renard en travaux?
Le rabotail. Le cérémonial est très important.
Il aura raison. Le fromage,
hein. Seulement, encore une fois, ça dépend. Ça dépend quelle est l'approche que j'ai. Est-ce que l'approche que j'ai, c'est je suis venu à la synagogue pour parler à Dieu. Seulement, j'aime bien quand on parle à Dieu de façon cérémoniale, avec de l'art. Bon, mais j'oublie pas que je suis venu pour parler à Dieu. Mais je vous dis, on a bien parlé à Dieu. On a parlé avec la classe marocaine. D'accord, pas de problème. On n'a pas avec la classe. Ça, je veux bien. Mais après, se perdre dans le décor et de dire, on a bien chanté.
D'accord, je comprends.
T'as chanté quoi? Ah, je sais pas, ouais, mais il y a eu un texte. C'est-à-dire qu'à la limite, on aurait pu chanter au clair et la lune, ça aurait été la même chose. Il avait une belle voix.
C'est pas ça le but.
C'est
une approche,
c'est clair.
Non, mais je pense
on aurait pu
pas,
lui.
C'est pas le but.
On aurait pu lui faire chanter un texte d'opéra. Vous avez déjà entendu de l'opéra? Tu comprends ce qu'il raconte?
Non.
Je comprends pas ce qu'il raconte. Mais on en a rien à faire, oui, mais on en a rien à faire ce qu'il raconte. Ce qui compte, c'est la voix.
Ils sont formés depuis bébé.
Tu t'en fiches ce qu'il raconte. Alors, la synagogue, c'est pas un opéra. Je peu importe ce qu'il raconte, juste parle. Juste chante.
Comment les Marocains, ils connaissent leur prière?
Ils ont appris avec des bouts de bois, des bâtons, ils ont appris.
Sa voix. La voix. Hein, la voix de l'officiant.
Tu connaissais pas, tu prenais un petit bâton.
Oui.
Et elle peut nous aider. On peut l'accompagner.
Moi, on m'a appris.
Mais un bon officiant, eh ben moi, je trouve que je...
Exactement. Mais moi, je vais vous dire. Moi, on m'a appris que, justement, en français aussi, on ne dit pas un chantre, on dit un officiant. C'est quoi un officiant? C'est pas la même chose.
Ah bah ouais,
un chanteur, c'est une personne qui est là pour chanter.
Ah non, c'est pas
un cantor, c'est une personne qui est là pour chanter aussi. D'accord? Un officiant, c'est une personne qui est là pour diriger et vivre une prière et faire vivre une prière. C'est son rôle.
Et dans le monde Ashkenaz, c'est un peu...
Quoi?
Chacun pour tout, c'est Dieu pour toi, c'est...
Bon, chaque endroit, c'est les réalités. Ça dépend des cultures de chaque endroit. D'accord? Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour retenir, si on explique aujourd'hui, on a expliqué trois choses. On a expliqué deux choses. On a expliqué les titites, d'accord? Non, trois choses on a expliqué. La préparation avant la tfila, d'accord? Les titites, d'accord? Et l'étude de la Torah. Que dans chaque mot d'étude de la Torah, il y a que je requête dedans. On va continuer, c'est pas fini, il y a beaucoup de choses encore. Après, on va parler des tfilines, d'accord? On va parler de beaucoup de choses, de la royauté d'Hachem, enfin de plein de mitzvot encore qu'on va parler. Que dans chacune des mitzvot, dès qu'on réfléchit à ce qu'on fait, c'est autre chose, c'est une autre mitzvah. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Merci.